Nous allons passer la parole à Charles, Charles Le Sage, qui va donc nous présenter l'initiative d'évaluation alors d'utilité sociale du mouvement SOL et justement son caractère co-construit. Est-ce que Charles, vous pouvez apporter un éclairage, si possible, le plus concret possible, sur la mise en place de cette évaluation, en revenant bien évidemment sur ses objectifs au départ, les finalités qui avaient été envisagées, posées. Et est-ce que vous pouvez, pour les personnes qui nous ont rejoints ce soir, nous présenter un petit peu les contours de la méthode, c'est-à-dire quels finalement outils vous avez mobilisés, quels moyens vous avez mis aussi en place, et puis bien sûr relever les difficultés et les perspectives qui s'ouvrent à vous, puisque cette démarche est en cours d'instruction.
Oui, merci, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. On m'avait proposé de faire une petite présentation
Oui.
PowerPoint. Est-ce que je peux partager mon écran?
Oui, bien sûr.
Oui, alors voyons voir. Partager. Est-ce que vous voyez mon écran?
Oui, ça marche.
Très bien. Bien, alors le mouvement SOL, c'est un mouvement associatif qui fédère plusieurs alternatives monétaires dans l'objectif de concourir à l'avènement d'une société plus écologique, plus solidaire, plus démocratique. On travaille en particulier avec les monnaies locales qui représentent la majeure partie de nos membres. Et donc, avant de vous présenter la démarche dans laquelle on est, qui est donc l'évaluation de l'utilité sociale des monnaies locales précisément, je voudrais rappeler brièvement ce qu'elles sont et le rôle du mouvement SOL à leur égard. Aujourd'hui, en France, on compte 82 monnaies locales qui circulent sur 13 000 communes, donc on couvre à peu près un tiers du pays. On a 50 000 adhérents, quasiment 50 000 adhérents, donc 10 000 entreprises et associations qui acceptent les monnaies locales comme mode de paiement et pas loin de 40 000 utilisateurs, utilisatrices particuliers. Tout ceci pour un montant de monnaie locale en circulation équivalent à 5 millions d'euros. Pour rappeler très brièvement le fonctionnement d'une monnaie locale, en tant que consommateur, consommatrice engagée, vous pouvez décider de faire vos achats en monnaie locale. Pour ça, vous allez adhérer à l'association de votre territoire, la Gonette à Lyon par exemple. Et vous allez, lorsque vous le souhaitez, échanger un certain montant d'euros, en échange duquel vous allez recevoir le même montant en monnaie locale. Donc vous donnez 30 euros en début de semaine, vous recevez 30 gonnettes. Et vous pouvez aller dépenser ces gonnettes dans le circuit des professionnels et des associations qui sont adhérentes, de la monnaie locale. Ces adhérents professionnels associatifs ont signé la charte éthique de l'association de monnaie locale, qui repose souvent sur les piliers écologiques, solidaires et démocratiques. Les euros que vous avez donnés initialement pour recevoir des monnaies locales ne sont pas utilisés par l'association de monnaie locale. Ils sont mis en banque. Alors, on travaille principalement avec la NEF et le Crédit coopératif. Et ces euros-là sont déposés dans un fonds de garantie qui garantit la masse monétaire de monnaie locale en circulation et qui sont investis par la banque dans des projets à plus-value sociale, culturelle et écologique sur les territoires des monnaies locales. Donc on a, à travers l'utilisation d'une monnaie locale, l'alimentation d'un double circuit, un circuit de consommation locale responsable et un circuit d'investissement dans l'ESS. Dernier point quant au fonctionnement des monnaies locales, leur gouvernance démocratique. On retrouve très souvent des gouvernances collégiales qui incluent tous les acteurs d'un territoire, les activités économiques, les citoyens, les bénévoles ou salariés de la monnaie, les universitaires, les collectivités territoriales, etc. Puisque l'un des fondements des monnaies locales, c'est bien de réappliquer à la gestion de la monnaie la notion de démocratie monétaire. Le rôle du mouvement SOL, c'est de fédérer ces monnaies locales et d'en animer la communauté, également quelques autres alternatives monétaires. de les représenter auprès des différents acteurs, en particulier nationaux, de communiquer sur les enjeux soulevés par ces alternatives, de les accompagner dans leur structuration, dans leur digitalisation, dans leur montée en compétences, et enfin de favoriser l'expérimentation monétaire au service d'une société écologique et solidaire. Alors, dans ce contexte, les monnaies locales, qui ont pour les plus anciennes d'entre elles une dizaine d'années, ont eu le besoin de pouvoir évaluer leur utilité sociale. Donc, le mouvement SOL les y accompagne depuis une année maintenant, et on a vu deux grandes familles d'objectifs, comme il a été évoqué plus tôt, des objectifs en interne et en externe. Donc les objectifs, pour nous, acteurs porteurs de monnaie locale, il y a d'abord un objectif de constituer un outil de pilotage, c'est-à-dire que les résultats de notre enquête doivent nous aiguiller sur les fonctionnements, ou les éventuels dysfonctionnements ou les attentes de nos parties prenantes. Et donc, le résultat de notre enquête devra constituer un outil de pilotage. C'est aussi un outil qui doit permettre à nos parties prenantes une plus grande compréhension de nos projets, y compris pour les porteurs des monnaies locales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la grande majorité des monnaies locales sont portées par des personnes bénévoles, engagées, qui ont perçu différents intérêts de la monnaie locale, mais pour certaines, on constate qu'il manque parfois une compréhension sur certains pans dont ils ne sont pas familiers. Et l'outil d'enquête nous permet de pousser plus loin la réflexion sur notre propre utilité et sur ce qu'on peut faire de nos monnaies. Donc, à la fois un outil de pilotage et un outil de meilleure compréhension de ce que l'on peut faire. En ce qui concerne les objectifs externes, sans m'y attarder puisqu'on l'a déjà évoqué, c'est pouvoir d'une part de mieux expliquer ce que sont les monnaies locales, ce à quoi elles servent, alors à tout type d'acteurs, pas seulement des financeurs, mais aussi les professionnels ou associations des territoires que l'on va voir en leur proposant de rejoindre notre réseau, les citoyens, consommateurs, en leur expliquant l'intérêt d'utiliser une monnaie locale plutôt que simplement l'euro. Donc, expliquer ce à quoi l'on sert et valoriser notre utilité à travers différents outils de mesure. Alors, le mouvement SOL est engagé dans une formation action. On est encadré par deux professionnels, l'une étant professionnelle de l'évaluation de l'utilité sociale, l'autre étant économiste statisticien et par ailleurs bénévole dans les monnaies locales. Ces deux accompagnants encadrent une équipe de 8 bénévoles et moi-même, les 8 bénévoles étant représentants d'une monnaie, chacune d'une monnaie différente. Donc on a une équipe de pilotage constituée d'une petite, disons d'une dizaine de personnes qui travaillent depuis octobre 2019 sur ce chantier qui durera jusqu'à mars prochain. Donc on a une enquête qui s'étale quasiment sur un an et demi. Elle se compose en trois grandes phases que vous voyez là. Entre octobre de l'année dernière et mai de cette année, la première phase était celle de l'appropriation des notions d'utilité sociale, qui s'est faite, je dirais, sur les premières semaines, et puis pendant les nombreuses semaines qui ont suivi, la construction de l'outil d'enquête. Donc j'y reviendrai, je le présenterai, il s'agit de questionnaires. Une deuxième phase, de mai à octobre de cette année, qui a été la collecte des données, où l'on a fait circuler les questionnaires auprès de différentes parties prenantes. Et enfin, la dernière phase qui a commencé au début du mois de novembre et qui court jusqu'à mars prochain, qui est l'analyse des données récoltées, puis la diffusion des résultats. Alors, pour la construction des questionnaires, donc ça c'est la première phase, ce qui a occupé l'équipe d'une dizaine de personnes pendant 4-5 mois. On a procédé par une étude exploratoire à travers laquelle les 8 bénévoles engagés des différentes monnaies locales sont allés interroger toutes leurs parties prenantes sur ce qu'elles imaginaient pouvoir être l'utilité d'une monnaie locale. Donc, par exemple, les membres de la DOUM dans le Puy-de-Dôme sont allés voir leur collectivité, leurs adhérents professionnels et associatifs, les citoyens utilisateurs de la monnaie, les bénévoles, parfois des universitaires, parfois des experts sur telle ou telle question. Et ceci a été reproduit par chacun des bénévoles impliqués dans les 8 monnaies pilotes. À partir de ces entretiens, c'était des entretiens qualitatifs, si vous voulez. On allait à la rencontre d'un agent territorial ou d'un élu territorial qui pouvait nous accorder une heure et demie de son temps, et on proposait à la personne un échange relativement libre. Et donc, vous imaginez, 8 monnaies locales faisant ça auprès de parfois 2-3 représentants de chaque catégorie de parties prenantes, on s'est retrouvé au bout de 4-5 mois avec énormément de matière sur ce sur quoi on pouvait attendre les monnaies locales en matière d'utilité sociale. Et donc, à la fin de cette première phase, notre travail à nous, groupe de pilotage, a été de lire toute cette matière, prendre connaissance de ce qui avait été remonté dans chacune des monnaies locales, et puis comprendre ce qui avait du sens, comment lier ça ensemble, comment catégoriser toute la donnée qui avait été remontée. Et donc, vous voyez là, ce que l'on a constitué, c'est à partir de notre identité visant à promouvoir la monnaie comme un commun, un outil géré de manière démocratique au service de l'intérêt général, on a pu identifier que notre utilité sociale portait sur 5 grands registres. Les monnaies locales concourant aux capacités, comme le disait Isabelle tout à l'heure, donc le pouvoir citoyen, renforcer le pouvoir citoyen. Les monnaies locales dans leur utilité et leur impact sur la solidarité dans le réseau qu'elles composent, leur impact sur l'économie réelle et locale, leur utilité en matière d'écologie, et enfin un dernier point qui est en quoi elles concourent à renforcer les dynamiques territoriales. Voici donc les 5 grandes familles d'utilité de nos monnaies. Et vous le voyez, on peut subdiviser chacune des catégories en sous-catégories. Alors, je vous propose un exemple ici. Dans la catégorie dynamique territoriale, c'est-à-dire qu'apportent les monnaies locales aux dynamiques territoriales, on a identifié 4 sous-catégories. On a eu des retours nous indiquant qu'il était probable qu'elles renforcent l'identité du territoire, à savoir le sentiment d'appartenance, en donner une belle image, le faire gagner en visibilité. On a vu également que les monnaies locales pouvaient favoriser la synergie entre les acteurs d'un territoire à travers de la coopération, de la mutualisation, à travers de la mise en réseau d'acteurs. Voilà, elles pouvaient concourir aussi à répondre à des besoins mal satisfaits sur le territoire de façon innovante, ou encore elles pouvaient venir compléter des politiques publiques. Une fois qu'on a identifié pour chacune de ces grandes familles et de ces grandes catégories quels étaient plus précisément les domaines, les actions, les façons dont la monnaie locale pouvait éventuellement avoir un impact, eh bien on a formulé tout ça sous forme de questions. Et donc on a créé 3 questionnaires. 3 questionnaires que l'on allait diffuser durant la deuxième phase de l'enquête, comme je le disais, de mai à octobre dernier. Donc les 3 questionnaires...
Est-ce que, Charles, tu peux essayer de finir dans une minute à peu près, s'il te plaît ?
D'accord. Donc Merci. Très rapidement, les 3 questionnaires recouvrent les 5 grandes catégories que j'ai présentées. Le premier questionnaire est à l'attention des professionnels et associations du réseau. Le deuxième à l'attention des particuliers et consommateurs. Et le troisième à l'attention des associations de monnaie locale elles-mêmes. Et donc tout ceci, 2200 réponses, nous permet aujourd'hui de nous lancer dans l'analyse. En ce qui concerne les contraintes, très rapidement, une contrainte de temps. On avait certainement sous-estimé le temps que prendrait une telle démarche. Et donc aujourd'hui, on est obligé d'avoir du surplus bénévole là-dessus. Alors on a la chance d'avoir l'un de nos encadrants professionnels qui accepte de donner du temps bénévole. Ça nous aide beaucoup. Donc ça, c'est vraiment un gros point de vigilance si vous voulez vous lancer dans de telles démarches. Une autre contrainte, c'est celle de la compétence et des outils dont on dispose. Voilà, je donne un exemple clair. Aujourd'hui, on aimerait évaluer dans quelle mesure les monnaies locales concourent à la décarbonation de l'économie. On n'a ni les compétences ni les outils pour le faire. Pour ça, il faudrait travailler en partenariat avec des experts comme l'ADEME ou d'autres agences dont c'est le métier. En termes de perspective, continuer à sensibiliser les monnaies locales sur ces questions-ci. Et puis, comme je le disais, puisqu'on aura énormément de matière, à la suite du rapport qu'on rendra en mars prochain, il est prévu que de manière peut-être bimestrielle ou trimestrielle, on produise des fiches supplémentaires pour continuer dans toute l'année qui suit à valoriser notre impact de manière plus détaillée. Merci.
Merci beaucoup Charles pour cette présentation éclairante et très concrète. On prend le temps pour une question, Oël ?
Oui, bah, même plus, hein, je pense qu'on a 3 minutes devant nous au moins. Il y a une question de Lucie qui était par rapport à la question du prestataire. Elle redemandait si vous aviez bien été accompagné par un prestataire pour constituer aussi l'outil de l'évaluation de l'impact, et si oui, combien cela avait coûté. Et aussi, il y a une deuxième question qui suit, c'est comment a été fait et sur quels critères vous avez choisi le prestataire.
Alors oui, les encadrants nous accompagnent au fil de l'eau. Sur une année et demie, on aura eu 3 séminaires de 2 jours, à peu près tous les 6 mois, et une dizaine de visioconférences avec toute l'équipe de 2 heures. Donc là, je dirais tous les 2-3 mois peut-être. Donc oui, on nous a accompagnés. Le coût, c'est de 30 000 euros. On est accompagné, donc on est financé par 2 fondations, la Fondation Crédit Coopératif et la Fondation Terre Solidaire. C'est donc un financement de projet et ça couvre l'encadrement par les 2 professionnels, sachant que probablement qu'au montage du dossier, on aurait été plus avisé de prendre également en compte le temps de travail salarié, en l'occurrence le mien, passé sur le projet. Ça a été complètement sous-estimé, donc si vous vous lancez dans de telles démarches, pensez surtout dans les coûts que vous allez présenter aux financeurs, à présenter les coûts que vous engagerez de vos ressources propres.
Merci. Il y avait la deuxième question qui était de savoir comment avaient été choisies les personnes qui vous ont accompagné.
Alors, je n'étais pas là à l'époque. Ce que je sais, c'est que, comme je le disais, une personne est spécialiste de la question de l'utilité sociale, a beaucoup travaillé avec la VISE, a travaillé avec les Restos du Cœur et d'autres structures de l'ESS. Donc, à la fois, je dirais, en termes de compétences, on était assez rassurés, et en termes de valeurs également. Et pour la deuxième personne, il s'agit de quelqu'un qui a des compétences complémentaires, puisqu'il est économiste statisticien, et il avait été rapporteur d'un rapport interministériel sur les monnaies locales en 2015. Il est par ailleurs bénévole dans l'une des monnaies du mouvement Sol. Et donc là encore, à la fois en termes de compétences et de valeurs, on était assez confiants. Voilà.
Et peut-être une dernière question, Lucie qui demandait si tu accepterais de nous dire le nom du prestataire.
Oui. Donc on travaille avec Hélène Duclos, spécialiste de l'évaluation d'utilité sociale, et avec Nicolas Meunier, l'économiste statisticien, par ailleurs très axé sur les monnaies locales.
Alors Hélène Duclos est vraiment à l'origine de la mise en place des démarches d'évaluation en France et a pu, on va dire, renforcer son expertise en amenant un regard territorialisé au référentiel qu'elle est capable de co-construire avec les acteurs qu'elle accompagne. Donc, effectivement, c'est un expert de référence.